Juger les crimes de guerre, anatomie d'un combat moral.
À l'heure où Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, deux chefs d'État, sont inculpés par la CPI, quelle est l'histoire de cet idéal de justice internationale né à Nuremberg il y a 80 ans ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le juriste et écrivain Philippe Sands.
Épisode 3, 1993, le réveil de la justice internationale.
La résolution de l'ONU doit dès aujourd'hui ramener les responsables des crimes à la raison. Le Tribunal pénal international est un ferme avertissement à ceux qui sont responsables de crimes dans d'autres régions du monde. Yuli Vorontsov, ambassadeur de la Russie à l'ONU, février 1993. On poursuit avec Philippe Sands notre discussion, notre conversation, notre échange sur la justice internationale. Comment juger les crimes de guerre, cette anatomie d'un combat moral? On est en 1993 et j'ai volontairement choisi que l'ambassadeur de la Russie à l'ONU parle. Parce qu'aujourd'hui, on n'imagine pas un ambassadeur de la Russie parler. On va revenir, bien sûr, concrètement et techniquement sur c'est quoi un tribunal pénal international à ce moment-là. Mais quand même, le fait que ce soit un Russe qui dise cela raconte qu'un verrou a sauté avec la fin de la guerre froide.
Absolument. Absolument. Entre 45, 48 et 93, sur le domaine du droit pénal international, rien ne s'est passé. On a 50 ans de silence.
Et pourtant, beaucoup s'est passé.
Beaucoup
sur
s'est
le
passé.
Terrain, ah, en
ouais.
termes de crimes de guerre,
ah, ouais.
entre le Vietnam, les guerres de décolonisation, la guerre de Corée, etc., etc.
Mais sur le plan du droit international, pas grand-chose. Hein, ouais. Il n'y a pas de développement. Le grand moment, c'est 93, 94. Qu'est-ce qui se passe? Fin de la guerre froide, un grand moment. Conseil de sécurité aux Nations Unies peut, pour la première fois, agir sans le veto
voilà.
de l'Union soviétique ou des Américains.
Et la Chine n'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui pour mettre son veto. Donc c'est un moment particulier dans l'ensemble du multilatéralisme et notamment dans la justice.
Et qu'est-ce qui se passe? D'abord, en l'ex-Yougoslavie, il y a la guerre civile entre les États de l'ex-Yougoslavie et les tueries en Rwanda. Et la communauté internationale n'a pas pu arrêter ces atrocités. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de créer deux tribunaux internationaux pour la première fois depuis Nuremberg. Un tribunal pour l'ex-Yougoslavie et un tribunal pour Rwanda. Et pour la première fois, ils intègrent dans le statut de ces tribunaux les trois grands crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité et, pour la première fois dans un tribunal international, génocide.
J'imagine que le fantôme de Nuremberg est ultra présent à ce moment-là. C'est l'idée de réactiver les mécanismes de Nuremberg. Est-ce qu'il y a eu des évolutions tout de même entre-temps? Il y a quand même plusieurs décennies entre Nuremberg et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, puis le Rwanda l'année d'après.
En fait, c'est une continuation de Nuremberg. Ils prennent tous les principes qui ont été adoptés en 1945. Madeleine Albright, le secrétaire d'État des États-Unis, à ce moment-là, le dit très ouvertement, nous avons commencé avec le statut de Nuremberg, on a un peu fait des petits changements ici ou là, mais en principe, on a pris ce texte. Et un aspect très important, parce qu'on reviendra à ce qui se passe de nos jours, c'est dans les deux textes qui ont été adoptés par le Conseil de sécurité, pas d'immunité pour le chef d'État ou l'ancien chef d'État.
Très important.
Très important. Ils ont pris ça de Nuremberg et ça veut dire que quelques années plus tard, inculpation pour la première fois d'un chef d'État en poste, Milosevic. Ça ne s'était jamais passé dans toute l'histoire des êtres humains. Alors, on voit petit à petit les changements.
Est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même avec Nuremberg dans la mesure où les crimes nazis ont été commis dans beaucoup de pays d'Europe? Là, dans le cas du Rwanda, on est dans un seul pays. La Yougoslavie explose, mais c'est dans un ancien pays, l'ex-Yougoslavie. La dimension internationale du crime n'apparaît pas forcément ici.
Il y a un aspect qui est important de nos jours. Les grands États, la Russie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine, n'ont pas intégré dans le texte de ces deux statuts le crime d'agression. Il n'apparaît pas, et ça va avoir des conséquences aujourd'hui, importantes, parce que l'agression tombe à côté. Et on reste avec les trois grands crimes. Mais non, en général, ils ont pris ce qu'ils ont fait entre 45 et 48, ils ont appliqué à ces crimes, atrocités, en fait, internes. Sauf que l'ex-Yougoslavie, il y a l'indépendance de certains États qui se développent en 91, 92. Et là, pour la première fois, on a aussi un procès sur le génocide. C'est la première fois que ça se passe pour les deux tribunaux, parce qu'à Nuremberg, on n'avait pas vraiment génocide.
Oui, entre-temps, il y a 1948 et le travail de Raphaël Lemkin, décédé quelques années plus tôt, en 1959, vous nous le disiez dans l'épisode précédent. Mais voilà, son travail, son œuvre de sa vie continue évidemment de perler dans le droit international au début des années 1990. En 93, quand le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est mis en place, on espère que ça soit dissuasif aussi. Mais malheureusement, pas du tout. Les grands drames, les grands meurtres, les grands crimes, comme Srebrenica par exemple, c'est après. Est-ce que ce n'est pas aussi les limites de ce droit international que de ne pas empêcher les crimes de guerre d'avoir lieu ?
Alors à ce moment-là, en 93-94, je suis prof à l'université. Et je me souviens très très bien, parce que je suis allé à La Haye pour assister à un procès devant la Cour internationale de justice, la Bosnie contre la Serbie, pour des mesures conservatoires, pour éviter les horreurs que les Bosniaques craignaient. Et je me souviens très bien les arguments. J'étais dans la salle. C'est la première fois que j'ai assisté à un procès. J'étais pas participant, mais j'étais spectateur. Et je me souviens des arguments. C'était fin 93. La Cour ordonne des mesures conservatoires, arrêter, respecter la Convention contre le génocide. Qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard ? Srebrenica, la tuerie de 8000 hommes bosniaques qui sont exterminés.
Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'on met en place des tribunaux, mais ce n'est pas encore des cours permanentes. C'est pour tel combat, pour telle guerre, on met en place un tribunal. Il y a donc l'ex-Yougoslavie et puis le Rwanda. Alors le Rwanda, on est plus sur une guerre civile, pour le coup. Est-ce que ça change quelque chose d'abord sur le périmètre de ce tribunal pénal international ? Est-ce qu'on le met en place parce qu'on considère que les Rwandais sont pas capables eux-mêmes, vu l'état de leur nation, de garantir la justice ou de réparer les crimes, qu'on le fait à l'échelle internationale ? Comment ça se passe ? Pourquoi le Rwanda ? La Yougoslavie, vous avez bien expliqué, on a compris, parce qu'il y a des pays nouvellement indépendants, on a compris ce qui se passe. Pourquoi le Rwanda ?
Avec le Rwanda, je pense que le tribunal pénal qui a été créé, c'était une sorte de culpabilité. Que la communauté internationale, y compris les Nations Unies, avait vu ce qui allait se passer, et ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et en fait, ça crée un sentiment pour plusieurs pays, y compris la France, qui a joué un rôle dans ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu agir pour arrêter ça. Moi, j'ai goûté un peu les conséquences de tout ça 20 ans plus tard.
Ah oui.
Mon livre Retour à Lemberg est cerné d'un prix, je pense que c'était 2017-2018, et je suis invité au Quai d'Orsay pour recevoir ce prix. Un livre avec le sous-titre « Les origines des crimes contre l'humanité et génocide ». Il y a une cérémonie fabuleuse, il y a ma mère, il y a ma tante. Et après que je reçois le prix, il y a un membre du jury qui vient vers moi et il me dit « Félicitations Philippe, c'est absolument génial ». C'était presque à l'unanimité. « Ah !» je dis, « qu'est-ce que ça veut dire ?» Il dit, ben, il y avait un membre du jury qui était contre parce que, franchement, il en a complètement marre de tous ces gens qui parlent tout le temps du génocide. « Ah !» je dis, « c'est qui ce monsieur ?» Bah, c'était un monsieur qui était très intégré à ce moment dans le gouvernement de M. Mitterrand. C'était M. Vedrine qui ne voulait pas vous donner le prix simplement parce que ça touchait sur le génocide. Alors, j'ai compris avec ce moment que ceux qui étaient au pouvoir à ce moment atroce au Rwanda, ils continuent à avoir de nos jours ce sentiment, je pense, d'une sorte de culpabilité qu'ils n'ont rien fait. Et c'est dans ce sentiment qu'on peut expliquer la création de ce tribunal pénal qui a eu un rôle très important dans le monde africain d'intégrer le droit pénal international plus seulement dans le contexte européen, mais global.
Évidemment, Hubert Védrine n'est pas là pour répondre à ces accusations, qui sont pas très graves, mais quand même, qui posent quelque chose. Donc, restons sur le Rwanda un instant et sur ce tribunal pénal international. Ses limites aussi, c'est qu'il ne peut pas tout faire. Il peut condamner, il peut poursuivre, mais la reconstruction ensuite d'une nation passe par des outils nationaux. Comment ça s'est passé au Rwanda? Parce qu'on ne peut pas déconnecter les deux. Il n'y a pas le tribunal qui rend sa décision et puis tout d'un coup, soudainement, le pays recommence à vivre comme avant.
Rwanda, c'est une histoire assez remarquable. Avec l'ex-Yougoslavie et avec le Rwanda, les tribunaux internationaux vont toujours jouer un rôle très limité. Il y aura quelques douzaines de procès, oui, mais pas plus que ça. C'est impossible. Alors, ce qu'ils ont fait au Rwanda, c'est qu'ils ont utilisé un système de justice au niveau très local. Ça s'appelle les tribunaux Gacaca. Ils ont fait des centaines de milliers de procès contre les individus dans le droit interne et au niveau local. Et ça a créé un contexte. Et là, j'ai visité pour la première fois le Rwanda, il y a quelques mois, pour la 30e anniversaire des événements épouvantables, les tueries, le génocide en Rwanda. Et ça m'a vraiment étonné. J'ai trouvé un pays où ça a l'air de marcher assez bien. On parle assez ouvertement de ce qui s'est passé. C'est un pays avec une économie qui marche, qui donne l'impression de marcher. Et j'étais plutôt surpris de trouver un pays que 30 ans après donne l'impression de marcher assez bien.
Est-ce que l'une des leçons de tout cela, c'est de dire que oui, la justice internationale est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi que les populations jugent elles-mêmes de leurs propres crimes.
Tout à fait. Une des choses que j'ai tirées de mon expérience, presque 40 ans maintenant dans ce domaine, c'est que le silence, ça ne marche pas. Il faut trouver un moyen de rentrer dans les histoires du passé. Et si on ne fait rien, ça va retourner. Les Allemands l'ont fait, les Autrichiens l'ont fait moins bien, les Rwandais l'ont fait avec... C'est pas tellement pour moi le système au niveau international, c'est plutôt les gachachas. Mais là, ce qu'on reconnaît, qu'on voit maintenant absolument clairement, c'est avec l'ex-Yougoslavie, ça n'a vraiment pas marché. Le système de internationaliser le justice et de ne quasiment pas faire grand-chose au niveau local, au niveau de droit interne, ça laisse une situation où les problèmes se reprennent et on est en train de vivre ça en ce moment.
Et juste un mot pour terminer, l'Afrique du Sud, c'est le phénomène inverse. Il n'y a pas eu de tribunal pénal international, il y aurait pu y en avoir un.
L'Afrique du Sud sur les crimes de guerre, franchement. Chili, ils ont fait Chili, un autre, ils ont expérimenté.
Ouais.
Ils ont dit en Afrique du Sud, on va pas avoir de procès, on va avoir un système de vérité et de réconciliation.
Voilà. Ouais.
Et on va créer le système suivant. Au lieu d'avoir un procès international, au lieu d'avoir un procès au droit pénal interne, on va créer un système où les gens peuvent éviter la pénalisation de leurs actions en venant envers un système de réconciliation, ouais, et raconter leurs histoires.
En échange de la vérité.
Exactement.
Les mots pour apaiser, les mots pour faire justice, ça suffit. Parfois, ça ne suffit pas. Vous avez cité le cas du Chili. Il a fallu aller beaucoup plus loin, ça sera l'objet de notre prochain épisode. Juger les crimes de guerre, anatomie d'un combat moral, un podcast original de France Inter.